Gironde Mag, le magazine de mon département, numéro 114, avril-mai-juin 2016. À la une de ce numéro, page 5, près de chez vous, Transgironde, proximité, essayez-le. Page 18, Force solidaire, maison des adolescents. Page 20, toujours Force solidaire, l'art de vivre en Gironde sur les routes du vin de Bordeaux. Page 30, producteur de Gironde, une bien belle pousse. Dito de Jean-Luc Glaise, président du conseil départemental de la Gironde, conseiller départemental du canton Sud Gironde.
La Gironde et le vin de Bordeaux ont leur histoire et leur terroir. Quand on parle du vin, Bordeaux devient le Bordeaux et perd sa majuscule. Mais n'y a-t-il vraiment qu'un seul vin de Bordeaux ? La Gironde est riche de la diversité de ses terroirs, de ses nombreuses appellations. Autant de parcelles, de cèpes, de méthodes qui font de chaque vin un vin unique, différent de tous les autres. C'est sur la voie de cette variété que le département vous invite, celle de la découverte d'un territoire girondin aux plaisirs multiples et généreux. Sur les routes du vin de Bordeaux, girondines, girondins, touristes pourront redécouvrir ou découvrir notre département. Allez à la rencontre des producteurs, allez déguster, allez visiter, allez respirer et allez vivre la Gironde au plus près des vignes. Un voyage à travers les 6 routes du vin de Bordeaux, c'est un voyage œnologique, gastronomique, mais aussi culturel, historique, naturel et sportif. Une promesse de qualité dans le vignoble le plus célèbre du monde, la Gironde, terre de tempérance et de solidarité, offre à ses visiteurs curieux son savoir-faire et son histoire, ses produits locaux de qualité, ces paysages généreux et colorés, elles se dégustent de multiples façons.
Se passe près de vous. Libournée. L'agglomération combat le réchauffement du climat. La communauté d'agglomération du Libournais, en lien avec le département, travaille à la réduction des gaz à effet de serre. Une préoccupation partagée et d'actualité.
La communauté d'agglomération du Libournais se retrousse les manches depuis plusieurs années pour lutter en faveur de la réduction des gaz à effet de serre. Elle rejoint là les préconisations du plan climat du département. La CALI s'est engagée dès sa création dans une démarche de développement durable et sur les enjeux énergétiques, affirme Fabienne Fontenot, vice-présidente de la structure intercommunale déléguée à la politique de la ville. La CALI a ainsi été labellisé « territoire à énergie positive » par le ministère de l'Écologie. Des mesures concrètes. La mission de la CALI aujourd'hui, réduire de 20% l'émission de gaz à effet de serre entre 2009 et 2020. Et les mesures concrètes se multiplient, tous azimuts. Les vaches laitières de la commune des Peintures seront mises à contribution via une étude sur la valorisation de leur déjection dans une usine de méthanisation. De même, avec le SMICVAL, syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation des déchets du Libournais Haute-Gironde, la CALI étudie la mise en place d'une chaufferie à bois alimentée, entre autres, par les déchets de bois des tonnelleries. Ces mesures concernent aussi directement les habitants de la communauté d'agglomération grâce à un guichet unique pour les propriétaires occupants qui souhaitent bénéficier d'aides pour la rénovation thermique de leur logement. Ainsi, 195 000 euros ont été déployés en 2015. Cette aide sera bientôt étendue aux bailleurs sociaux pour la rénovation de leurs bâtiments. La CALI ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Participant au réseau des agendas 21 de la Gironde, l'agglomération devrait encore, dans les années à venir, mettre en place de nouvelles mesures en faveur du développement durable.
En 2015, le département a consacré 131,5 millions d'euros au plan climat, soit environ 8% de son budget global. La CALI a été accompagnée sur les 6 dernières années à hauteur de 60 000 euros par an afin de conforter ses actions de développement durable dans le cadre de l'agenda 21 de la Gironde, entretien écologique des espaces publics éducation au développement durable, achat public responsable.
Une date.
4 février. Pose de la première pierre de l'établissement pour personnes âgées, dépendantes et du foyer d'accueil médicalisé de Saint-Denis-de-Pile. Cette année, le département aura apporté à cette EHPAD, Fondation Sabatier, en restructuration, 1 527 738 euros au titre de l'APA.
Médoc. Une huître 100% Médoc. En décembre 2014, avec le retour des huîtres du Médoc sur les étals, la presqu'île a renoué avec son passé ostréicole. Soutenue par le département, cette relance prometteuse est le fruit d'une forte mobilisation des élus locaux et des professionnels de la filière.
L'huître dans le Médoc, malgré l'arrêt de toute activité ostréicole sur ce territoire durant plus de 40 ans, en grande partie pour des raisons sanitaires, quelques irréductibles, des professionnels et des élus locaux y croient encore. Ainsi, en 2012, le projet de relance de l'affinage des huîtres dans les bassins aquacoles du Nord Médoc voit le jour. Les élus, le comité régional de la conchyliculture, Arcachon-Aquitaine, la région, le département, le grand port maritime de Bordeaux et la communauté scientifique, tout le monde a travaillé de concert pour faire revivre cette économie locale, souligne Pascal Gault, député de la Gironde et conseillère départementale du Sud-Médoc. 3 mois d'engraissage. Mi-2014, suite à l'étude commune à l'Université de Bordeaux et au CNRS, le feu vert est donné pour l'affinage du coquillage dans les mattes, ces vastes marais du nord de la presqu'île. Durant 3 mois, l'huître est immergée 24 heures sur 24 et se gave de phytoplancton. On obtient des spéciales, charnues et peu iodées, qui complètent bien l'offre du bassin d'Arcachon, explique Bertrand Lang, exploitant de la ferme aquacole au Médoc, à Saint-Vivien-du-Médoc et président de l'association CPIE Médoc, Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Cette exploitation produit à ce jour cette huître peu salée au goût singulier. Celle-ci, par son affinage tout particulier, pourrait bien obtenir un label rouge ou bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée AOC. À l'horizon 2017, 2 autres fermes devraient voir le jour au Verdon, sur des terrains du port de Bordeaux. C'est ainsi une vraie filière qui a commencé à se constituer, avec de nombreux bénéfices pour cette partie de la presqu'île. Le maintien et la création d'emplois chez les aquaculteurs, la valorisation des circuits courts, sans oublier une nouvelle image touristique et gastronomique pour la pointe du Médoc.
En chiffres, près de 40 tonnes d'huîtres affinées par an et 8000 tonnes sur le bassin d'Arcachon. Cette exploitation sur 98 hectares en eau, 1 million d'euros, c'est la somme que le département a consacrée ces 20 dernières années en vue de l'installation des aquaculteurs.
Une date.
9 janvier. Inauguration de l'antenne de la maison des adolescents à l'Espard. Le département soutient la structure pour son fonctionnement à hauteur de 306 000 euros, soit près de 64% de son financement total.
Haute Gironde, Transgironde proximité, essayez-le. Aller au marché ou au club des seniors, consulter son médecin traitant, rejoindre la gare SNCF. Le transport de proximité facile et économique, mis en place par le département, permet tout cela et bien plus. La preuve avec un test grandeur nature sur le territoire de la communauté des communes de Bourg en Gironde.
Claudine habite en Haute-Gironde. Comme tous les habitants des communes de la communauté de communes de Bourg en Gironde, elle peut utiliser ce transport à la carte, mis en place par le département en partenariat avec la structure intercommunale. À l'échelle de la Gironde, elles sont 17 communautés volontaires à avoir choisi de tenter l'expérience. Claudine apprécie cette desserte pleinement adaptée à ses besoins, complémentaire aux lignes régulières d'autocar Transgironde, qu'elle aille au marché ou décide de se faire une beauté chez son coiffeur. Beaucoup moins isolée, elle profite d'une offre qui a vu le jour en 2013 et n'a cessé de se développer depuis. Ici, devant la porte. La communauté de communes de Bourg en Gironde a fait le choix de réserver ce moyen de transport à la demande aux personnes âgées de plus de 75 ans ou en perte d'autonomie, mais aussi à mobilité réduite. Sont également concernés sur ce territoire tous ceux qui perçoivent des minima sociaux ou sont en insertion professionnelle. Faire ses courses, rendre visite à ses proches, répondre aux rendez-vous de Pôle emploi ou rejoindre plus facilement la maison départementale de la solidarité et de l'insertion la plus proche, voilà ce que permet le dispositif. Prise en charge devant sa porte après un simple coup de fil, amenée au lieu convenu, puis ramenée chez elle, le tout pour un tarif modeste, Claudine ne tarit pas d'éloges sur ce qui constitue un vrai changement dans sa vie quotidienne. Avec une cinquantaine de trajets par mois en 2015, la communauté de communes de Bourg-en-Gironde espère conforter ce service à la population pour lui donner sa pleine efficacité. Et si vous l'essayez, site transgironde.fr, onglet se déplacer, rubrique transport de proximité, renseignez-vous auprès de votre communauté de communes adhérente ou au 0974 500 033.
Combien ça coûte ?
À partir de 2,60€ l'aller et 4,20€ l'aller-retour intra-communauté de communes. 6,20€ aller simple hors communauté de communes. Pour vos déplacements de proximité, inscription auprès de la communauté de communes de Bourg, Patricia Bardin au 05 57 94 06 80.
Une date.
7 janvier. Le président Jean-Luc Glaise a rendu visite à l'entreprise Evia Marine à Saint-André-de-Cubzac qui réalise des pontons flottants et à l'association AMSAD à Saint-Savin-de-Blaye, structure de maintien à domicile et troisième employeur de la Haute-Gironde.
Le bassin. Même la vase se recycle. Que deviennent les milliers de mètres cubes de vases extraits chaque année des ports et des chenaux ? Depuis 15 ans, le réemploi de ces sédiments est organisé par le département, le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon, SIBA, et les communes. De nouvelles filières plus pérennes sont à l'étude.
Depuis la mise en place en 2000 du schéma directeur de traitement des vases portuaires du bassin d'Arcachon, de gros volumes de sédiments ont été traités et réutilisés sur place pour réensabler les plages, réaliser des digues et des remblais dans les ports ou réhabiliter d'anciennes décharges publiques. Cette année, le centre d'enfouissement d'Audenge réceptionnera le produit des opérations de dragage des ports d'Audenge et de la Barbotière. Même si ces dispositifs récoltent une grande quantité de sédiments, ils ne permettent pas d'en assurer à long terme le recyclage. Du port à la route. Pour diversifier les filières de valorisation, plusieurs pistes sont étudiées depuis quelques années par le département, gestionnaire direct des ports de la Teste et de Gujan-Mestras, excepté la Hume, le SIBA et les communes. La fabrication de supports de culture végétale à partir de sédiments et de déchets verts issus des déchetteries locales est une des pistes. Il en existe d'autres, le remblai des routes neuves ou encore plus prometteur, l'aménagement paysager avec la construction de buttes végétalisées.
3 hectares de bassins de décantation à la Molle. Depuis 2009, le centre départemental de pré-traitement de la Molle réceptionne les vases issus des ports départementaux du Sud-Bassin. Récoltés au printemps selon la technique de dragage par aspiration, ces boues noires mais non toxiques décantent et sèchent dans les bassins durant 12 à 18 mois. 68 800 mètres cubes de sédiments extraits depuis 2009. Cela représente l'équivalent de 2 terrains de football remplis jusqu'au sommet des cages de but, soit 2,50 m de hauteur. 39 000 mètres cubes de sable et 29 800 mètres cubes de vases valorisés.
Une date.
5 février. Lancement du service civique pour 16 jeunes du bassin d'Arcachon au Teche. Il leur est proposé un parcours d'insertion sur le terrain. Par équipe, ils vont s'impliquer dans plusieurs projets à la Teste et Audenge. Le département investit 543 000 euros dans le service civique pour les jeunes du bassin, mais aussi de la Haute-Gironde et du Sud-Gironde.
Hauts-de-Garonne, en Barrès, un nouvel écrin pour la solidarité. Cette nouvelle maison départementale de la solidarité et de l'insertion, située en plein centre-ville d'Ambarès, offre un cadre des plus agréables pour les nombreuses personnes qu'elle accueille et conseille.
Ce sont des familles, des jeunes mamans, des personnes âgées qui viennent chercher des réponses à leurs questions. Dans la nouvelle maison départementale de la solidarité et de l'insertion, MDSI d'Ambarès, l'accueil des nourrissons, la santé et l'insertion sont des thèmes abordés chaque jour. La MDSI est installée dans un bâtiment en flambant neuf, au cœur de la ville, à deux pas notamment de la mairie et du centre social. Une situation qui ravit Michel Héritier, maire de la commune, très impliqué dans le projet. Cette opération s'inscrit dans le plan Solidarité 2013, développé par le Conseil départemental de la Gironde, qui comprend la construction ou la restructuration de 26 bâtiments de services de santé sociaux et médico-sociaux. Pour l'équipe pluridisciplinaire de la MDSI, composée d'assistants sociaux, secrétaires médico-sociaux, conseillers en économie sociale et familiale, médecins, psychologues, sages-femmes, chargés d'insertion et puéricultrices, ce déménagement permet un rapprochement auprès des bénéficiaires qu'elle accompagne. Une maison lumineuse et confortable. Nous sommes en plein centre de notre bassin de population, observe Philippe Villetorte, directeur du pôle de solidarité des Hauts-de-Garonne. Ce nouveau bâtiment de près de 1900 mètres carrés, réparti sur deux niveaux, à l'architecture contemporaine, mêlant formes, courbes et bardages de bois, doit être le plus accueillant et confortable possible pour les usagers. Ceux-ci sont ainsi reçus au rez-de-chaussée, dans des salles d'attente ou de consultations lumineuses organisées autour d'un patio, tandis qu'à l'étage sont regroupés les bureaux des 30 agents de la MDSI. Le rez-de-chaussée compte également des salles plus grandes permettant la tenue d'ateliers ou d'actions collectives, comme la prochaine opération prévue au beau jour pour les jeunes autour du vélo. Ils apprendront à l'entretenir et, aux côtés de la police municipale, à circuler en ville, une des nombreuses opérations à venir de la MDSI d'Ambarès. Plus d'infos sur gironde.fr/MDSI.
En chiffres, dans le cadre de Solidarité 2013, le département a investi 5,3 millions d'euros pour la construction de la nouvelle MDSI d'Ambarès.
Une date.
11 janvier. L'opération D2C Gironde Transfert fête son 4e anniversaire. L'expérience accompagne le recrutement des TPE-PME et favorise l'embauche de personnes en situation de précarité. Sur les Hauts-de-Garonne, l'an passé, 56 participants ont accédé à un emploi. Entre 2012 et 2014, le département a investi dans cette opération et sur ce territoire 278 657 euros.
Porte du Médoc, l'une et l'autre. Et s'écrivant EST, l'art se joue du handicap. L'une et l'autre, ou la fusion, la rencontre entre des artistes et des personnes handicapées qui permettent de construire des projets artistiques singuliers. Décidément, elles sont riches les ressources artistiques locales qu'accompagne le département.
Laurence de la Fuente, enthousiaste artiste quarantenaire et auteur et metteur en scène au sein de la compagnie Pension de Famille depuis 2002 à Bordeaux. Soutenue par les institutions culturelles nationales et locales, l'équipe théâtrale travaille sur la recherche dramaturgique avec des écrivains contemporains. Proche de la performance, elle emprunte aux univers musicaux, littéraires, à la chorégraphie et au cinéma. C'est dans le cadre d'un appel à projet départemental baptisé « L'un et l'autre » que la compagnie a pu développer ses actions de sensibilisation, ses ateliers d'écriture et de mise en jeu avec le foyer de vie Jenny Lepreux de Mérignac. Ainsi, pendant 2 ans, 11 résidentes singulières dans leur handicap mental, ont écrit, puis répété et joué pour la caméra « Le bruit des vagues ». Un court-métrage solaire réalisé par « Le dessous des balançoires » partenaire du projet, qui raconte la parenthèse enchantée d'un week-end au bord de l'eau. C'est beau, la mer. Ces femmes en robe rouge. Des chemins qu'on peine à gravir, des valises qu'on traîne sur les cailloux, des rideaux qui se lèvent sur la mer, de la joie contagieuse et colorée, des sorties, du rire, des disputes et des chorégraphies balnéaires. C'est tout cela que ces femmes étonnantes ont joué dans ce film de fiction libre. Ni tout à fait elles-mêmes, ni tout à fait d'autres, pour se retrouver dans un temps de tournage resserré en dehors du foyer. La musique de Shazam, compositeur et créateur de musique décalée, qui donne envie de bouger, relie l'histoire de bout en bout. Elle fait danser les filles en robe rouge dans une dernière scène joyeuse face à la mer. C'est aussi cet univers que Xavier Cantin, photographe de plateau et de spectacle vivant, a capté dans son objectif pour réaliser une exposition sensible et colorée. Les photos du tournage du film accompagnent sa diffusion de lieu en lieu, en Gironde. La conclusion appartient à Laurence de la Fuente, qui résume cette belle aventure. Aujourd'hui, nous ne nous posons pas tellement la question du handicap. Nous sommes heureuses d'avoir rencontré ce groupe de femmes, dans leur singularité, qui se sont engagées dans un travail de création collective.
Plus d'infos.
Nouvel appel à initiative sur gironde.fr /l'un-et-l'autre LUN-EST-LAUTRE
L'un et l'autre. Appel à initiative liant associations culturelles et établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées ou des personnes adultes handicapées. 30 projets sélectionnés pour 2015 et 2016. 61 projets soutenus entre 2010 et 2014. 129 400 euros investis par le département en 2015. 1500 personnes environ concernées en 2014, résidents, publics, artistes.
Une date.
18 décembre. Le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires a émis un avis favorable pour le projet de la déviation du Taillant. À l'occasion, le département réaffirme son attachement à cette infrastructure routière indispensable à l'essor du Médoc.
Bordeaux, à l'écoute du MAG. Le groupement des intellectuels aveugles et amblyopes, GI2A de Bordeaux, offre au public, mâle ou non-voyant, une autre manière d'aborder la lecture que celle proposée par le braille. Lire en écoutant, c'est aussi possible avec votre magazine Gironde Mag, grâce à cette équipe, depuis le numéro 112.
S'adressant à l'origine aux étudiants aveugles et malvoyants, l'association a rapidement fait un constat. La machine pour lire le braille est imposante et seulement 5% de cette population le lise. L'audio s'est alors imposé comme une évidence pour son confort d'écoute autant que pour sa facilité d'utilisation. De plus, depuis 2005, un format MP3 amélioré permet de conserver la pagination du livre physique, ajoutant un confort supplémentaire. Du texte à l'image. Le GI2A a réussi à donner à Gironde Mag non pas une, mais plusieurs voix, toutes sélectionnées en amont pour une écoute agréable. Chaque article a son identité propre pour rendre vivantes les différentes pages du magazine, allant jusqu'à la description des images jugées nécessaires à sa pleine compréhension. Comme pour les ouvrages, la pagination est conservée, permettant une navigation aisée. Au-delà de cette relecture du magazine départemental, le GI2A participe à d'autres projets. Description de tableaux pour des audioguides, transcription de bandes dessinées avec des adaptations de Tintin, cours d'informatique adaptés, etc. Avec comme maître mot la convivialité et l'échange. L'association lutte contre le repli sur soi, mettant tout en œuvre pour rendre la culture accessible à tous.
Contact. Groupement des intellectuels aveugles et amblyopes. 14 rue de la Réole, 33 800 Bordeaux, 05 56 31 48 48. www.giaa.org.
Quelques chiffres.
Le Groupement des intellectuels aveugles et amblyopes, association nationale depuis 1949. La délégation bordelaise de l'association existe depuis les années 80. Seulement 5% des aveugles lisent le braille. La transcription de Gironde Mag en version audio est disponible depuis le numéro 112, septembre 2015. Nombre d'intervenants sur le numéro 112, 11 voix. Temps de travail et d'enregistrement pour le numéro 112, 2 jours. Nombre de bénévoles, 80, mais toujours en recherche de nouveaux.
Une date.
14 mars. Le département de la Gironde obtient le trophée Participation et Concertation 2016 de la Gazette des communes, couronnant la mise en œuvre de sa politique de participation et de concertation territoriale. Le département est aussi désigné lauréat d'or dans la catégorie sociétale des entreprises par le magazine Décision Achat.
Et un rappel, tous les numéros précédents de Gironde Magazine sont disponibles sur gironde.fr/publication au pluriel. Grave, une épicerie solidaire et des assos. À Villeneuve-d'Ornon, une maison des solidarités a ouvert ses portes, structurée autour d'associations ayant pour objectif commun le mieux vivre des familles.
Faire front contre la précarité et l'isolement, adoucir le quotidien des familles en favorisant l'échange quotidien, c'est le défi relevé par trois associations. Femmes villeneuvaises, solidaires et citoyennes, Petite Enfance, Famille et Culture et Escale Solidaire, regroupées depuis 2010 au sein de la Maison des Solidarités. Dans cet espace à vocation multiple, on peut à la fois se rencontrer, se distraire, se remettre en forme, s'informer ou trouver de l'aide. Les sorties entre familles, autofinancées par des actions communes, sont encouragées. Des ateliers divers, entre parenthèses cuisine, couture, sport, sophrologie, informatique, peinture, musique. Et des rencontres thématiques autour de la santé ou de l'endettement sont organisées. S'ajoutent à ces propositions des permanences de psychologues et un accompagnement aux démarches administratives. Cette dynamique est soutenue par l'intervention de bénévoles associatifs et de professionnels du département. Ainsi, la clé de voûte de la démarche s'appuie sur un partenariat actif avec les associations locales, animation, jeunesse, sport, culture, sociale. Réinvestir des projets. Au cœur de ce dispositif, l'épicerie solidaire, où chaque année à raison d'une fois par semaine et pour une durée minimale de 3 mois, une centaine de familles orientées par les travailleurs sociaux de la commune viennent faire leurs courses à environ 70% en dessous des prix habituels du marché. En contrepartie, les familles s'engagent à réinvestir le fruit de cette économie dans un projet visant à améliorer leur situation personnelle. Payer des factures, financer un permis de conduire, souligne Julie Rimbaud, responsable de l'épicerie baptisée Ensemble. Maison des Solidarités, du lundi au vendredi de 9h à 17h, 1 route de Léognan, 33 140 Villeneuve-d'Ornon, téléphone 05 57 96 90 74.
En chiffres, le département apporte une subvention de 60 000 euros par an à la Maison des Solidarités, toutes structures confondues.
Une date.
12 février, inauguration du restaurant scolaire de la commune de Socatz. Le département a apporté 42 660 euros à l'opération après avoir investi 52 950 euros sur l'extension de l'école maternelle.
Sud Gironde, Cap Ostens. Le raid par nature. Plaisir du sport en pleine nature ou de la performance, Cap Ostens souffle cette année sa 10e bougie et rassemble une communauté de plus en plus large.
Le domaine départemental d'Ostens accueille les samedis 21 et dimanche 22 mai une nouvelle édition du grand rassemblement girondin des amateurs de raid. Sur ce site unique, comprenant 5 lacs et un espace naturel de 600 hectares en pleine forêt des Landes, les amateurs de sport de plein air pourront se faire plaisir hors des sentiers battus. Familles et confirmés. Différents parcours sont adaptés au niveau des participants. La manifestation du samedi est ouverte aux adultes et aux familles par équipe de 3. Le matin, un itinéraire découverte de 18 km s'adresse aux sportifs du dimanche ou aux raideurs confirmés avec leurs ados à partir de 12 ans. L'après-midi, l'épreuve de 28 km est destinée aux athlètes entraînés. Quant à la manifestation du dimanche, c'est celle des enfants. 2 raids par équipe de 2 sont proposés aux 8-11 ans et aux 12-16 ans. Loisirs pour tous. Organisé par le département qui mobilise une 20aine de personnes pour l'encadrement, Cap Ostens est une invitation à la pratique d'activités sportives grand public. La manifestation favorise le développement des loisirs de nature pour tous. Une recette dont le succès ne se dément pas, puisque près de 1000 coureurs sont attendus ce printemps. Plus d'infos sur gironde.fr/challenge-sportif. Challenge sportif au pluriel.
Challenge départemental des sports de nature. Nouveauté en 2016, Cap Ostens s'intègre à un programme de 6 journées sportives composant ce challenge.
Une date.
27 janvier. Pose de la première pierre de la résidence La Fonderie à Bernoz-Beaulac. Pour la réhabilitation de ce bâtiment et la construction de 6 logements individuels, le département a investi 150 000 euros.
Force solidaire. UMA. Une alternative coopérative. L'agriculture affronte l'une des crises les plus importantes de son histoire et les producteurs en appellent à des solutions pérennes pour faire mieux que survivre. Et si parmi les idées à creuser, certaines existaient déjà, les coopératives d'utilisation de matériel agricole ou CUMA ont-elles un temps d'avance? En Gironde, en tout cas, elles ont tracé des pistes.
Moins d'endettement. Il y a, en France, 11 260 CUMA, parmi lesquelles 101 en Gironde. Elles impliquent dans notre département 1700 agriculteurs et représentent un chiffre d'affaires annuel de 4,9 millions d'euros. Ces coopératives, à but non lucratif, ont vu le jour en 1948. Elles se sont popularisées à partir des années 1970 avec la généralisation de la mécanisation dans le monde rural. Leur objectif premier, l'achat groupé de matériel. Au fil du temps, l'acquisition d'outils de production de plus en plus sophistiqués reste le premier poste de dépense et donc d'endettement des exploitations. Mis en commun, ces moyens sont plus vite rentabilisés et plus faciles à renouveler avec un accès aux technologies plus performantes et écologiques. Cet accès aux moyens premiers de production n'est pas neutre dans le contexte que connaît l'agriculture aujourd'hui. Le partage de l'équipement contribue à maintenir en vie des exploitations de petite taille et à activer la dynamique territoriale, souligne Marie-Josée Garder, directrice de la Fédération des CUMA Gironde. Avec au moins 4 adhérents, chacune de ces structures est aussi source d'emploi, puisqu'au niveau national, 4 500 salariés dépendent directement des CUMA. Précisons que le paysage coopératif agricole en Gironde, comme partout en France, tend au regroupement et à la diversification, répondant aussi aux nécessités de faire face à une concurrence européenne et mondiale. Soutien et convivialité. La CUMA, ce sont d'abord les femmes et les hommes qui la composent, avec une grande diversité de cultures, une mixité des compétences, un mélange de générations et l'échange dynamique des idées. Ainsi, dans les CUMA viticoles de Gironde, le mélange de viticulteurs coopérateurs et particuliers offre une diversité intéressante pour faire avancer la filière. Fondée sur des valeurs d'engagement, les CUMA impliquent implicitement soutien et convivialité. Si un agriculteur a des soucis pour effectuer ses récoltes, il sait pouvoir compter sur les autres membres de la CUMA, comme en 2013, année de grêle, où l'entraide a permis à 80% des viticulteurs de récupérer un minimum de vendanges, se souvient Marie-Josée Gardère.
Quelques chiffres.
En 2015, 22 000 euros ont été attribués à la Fédération des CUMA de Gironde. Plus de 29 000 euros ont été investis pour soutenir les projets de 10 CUMA girondines.
Trois exemples de CUMA girondines. La CUMA des Côtes de Castillon.
Christian Sabaté, 60 ans, exploite le domaine familial de Château-Fombaude, qui produit 50 000 bouteilles de vin bio par an. Reconverti dans le bio en 2008, mais n'utilisant ni insecticides, ni engrais chimiques, ni pesticides depuis 1975, il préside depuis 10 ans cette CUMA dédiée au traitement des effluents, forte de 110 adhérents. Christian Sabaté commente « Il faut 1,2 litre d'eau pour faire un litre de vin. Dans mon cas, 1200 hectolitres d'eau usés à évacuer par an. Certains produisent jusqu'à 10 000 hectolitres. Auparavant, les effluents se rejetaient dans les ruisseaux. Le trop-plein de matière organique détruisait la faune locale. Avec notre station d'épuration, nous apportons une solution pérenne. »
CUMA, la Saint-Magnèse.
Depuis 2012, Jean-François Ménard, 47 ans, préside la CUMA de Saint-Magne de Castillon, créée 14 ans plus tôt. En 2013, elle est relancée par l'achat d'une effeuilleuse. Elle compte aujourd'hui 14 adhérents. Jean-François Ménard raconte « L'effeuillage dure un gros mois, du 20 juin au 10 juillet, et la poudreuse ne sert qu'une fois dans l'année, d'où l'intérêt d'acheter groupé. La vendangeuse peut couvrir 85 hectares. Seule, avec mes 40 hectares, je ne la rentabiliserai pas. La CUMA est une très belle aventure humaine. On mange ensemble, on parle de tout, on s'échange des clients. C'est une leçon de vie. »
La CUMA de Barry.
À la tête de la CUMA de Barry, depuis 2002, Serge Lacoste, 54 ans, a deux autres casquettes. Cultivateur de noix et de céréales et producteur d'osier. Fondée il y a 45 ans, cette CUMA regroupe une trentaine d'exploitations de jeunes récemment installés en bio. Ici, les investissements sont longuement réfléchis, comme pour cette bineuse de 30 000 euros équipée d'une caméra. Serge Lacoste entre dans les détails concrets. Nos outils représentent une valeur de 600 000 euros, une somme énorme pour un seul homme. On essaie de répartir au mieux les rôles. Responsabilité ou entretien du matériel, compte-rendu détaillé des activités au conseil d'administration. La CUMA s'inscrit pleinement dans l'économie sociale et solidaire. Une idée tellement simple.
Le point de vue de Bernard Castagnier, vice-président chargé de l'attractivité territoriale, du développement économique et du tourisme.
En Gironde, on a inventé le coworking ou site de travail partagé pour des questions de moyens et de lutte contre l'isolement des petits entrepreneurs. Nous avons aussi, en Gironde rurale, avec les CUMA, un temps d'avance. Ce type de coopérative a posé certaines des bases essentielles de l'économie sociale et solidaire. Nous devons maintenant nous inspirer de leur expérience pour accompagner les mutations de l'économie agricole.
RSA, le rebond. Les allocataires du revenu de solidarité font face à des situations souvent complexes. Certains sont confrontés à des problèmes sociaux majeurs et le revenu de solidarité leur apporte une aide vitale. Pour d'autres, le RSA est une étape au cours d'une vie professionnelle faite de hauts et de bas. En effet, avec des dispositifs d'accompagnement solides, cette allocation ouvre des perspectives. Se former, trouver un emploi et même, pourquoi pas, devenir chef d'entreprise.
Un marchepied. Le RSA a été mis en place spécifiquement pour contribuer à la dynamique de retour à l'emploi. En témoigne Alexandre Jupille, 34 ans, créateur de sa propre société. Titulaire d'un CAP BEP menuiserie, Il s'occupe aujourd'hui d'agencement, création de stands dans l'événementiel, aménagement de cuisine et dressing pour les particuliers. Avant cela, il a enchaîné les petits boulots, 5 ans dans la vente et une rupture professionnelle, intérim, Pôle emploi, RSA. Au milieu des doutes, a subsisté son désir de créer son entreprise. C'est déjà ce que je voulais faire au collège, être mon propre patron. Allocataire du RSA, il a alors intégré le dispositif départemental dédié à la création d'activités et a bénéficié de l'accompagnement de l'ADIE, Association pour le droit à l'initiative économique, pour atteindre son objectif. Un appui. Retrouver la confiance, passer à l'action, se former, construire son projet, même quand on est motivé, ça n'est pas simple. Plusieurs structures accompagnantes, partenaires du département, spécialisées dans l'insertion professionnelle, ouvrent la route. Elles proposent, par exemple, des formations avec des ateliers pratiques et personnalisés. La locataire rencontre ou pas des professionnels, prend des contacts, valide les étapes du projet de création, peut accéder au microcrédit. C'est une façon sécurisée de créer son propre emploi. Alexandre Juppy confirme. Avec la location, on a un minimum de revenus et on peut se consacrer au projet pleinement. La première année, il a atteint ses objectifs, il n'est plus allocataire depuis 2014. Le RSA et les aides qui vont avec, ça m'a permis de me lancer. Au bout de 2 années, son activité progresse encore. Je voudrais développer aussi la création de jouets pour enfants, des boucliers en bois. Je suis passionnée de l'époque médiévale et des chevaliers. Du positif. Avec des associations qui soutiennent le retour à l'emploi, le département fait le choix résolu d'impulser les dispositifs d'accompagnement. Le rebond, ça se prépare à plusieurs. En Gironde, tout est mis en œuvre pour aider les allocataires du RSA à prendre ou à retrouver leur élan. Plus d'infos sur gironde.fr/RSA et www.adieconnect.fr.
Le point de vue de Denise Grélard-Nedelec, vice-présidente chargée des politiques de l'insertion.
Le RSA doit être mis à profit pour accompagner chacune et chacun sur la voie de l'insertion. Notre collectivité a pour objectif de contribuer à la réussite de ce parcours. Il doit permettre à chacun de redevenir acteur de sa vie et de prendre toute sa place dans la société.
Quelques chiffres.
70% à 75% des allocataires du RSA sont accompagnés dans leur projet d'insertion professionnelle. En 2015, le département a financé une enveloppe de 217 millions d'euros pour le versement par la CAF du RSA à 41 229 foyers allocataires. En Gironde, 30% des personnes pouvant prétendre au RSA ne le demandent jamais.
Territoire girondin, des pactes pour bâtir l'avenir. Il y a déjà 3 ans, le département s'est lancé dans une démarche innovante et audacieuse. Bien avant la mise en œuvre des réformes territoriales, l'institution départementale s'est interrogée sur ses pratiques, a souhaité mettre ses politiques à l'épreuve des réalités du terrain. La nouvelle équipe d'élus, à peine mise en place, a décidé avec Gironde 2033 de proposer un dialogue territorial inédit qui aboutit d'ores et déjà à une co-construction avec les territoires. Des pactes solides dessinent l'avenir, avec ambition et enthousiasme.
La Gironde gagne 15 000 habitants par an. Attractif, le département le plus grand de France a de nombreux atouts et affiche une diversité de situations considérables, du sud au nord et d'est en ouest, une disparité qui se lie aussi dans les attentes de ses acteurs locaux, chefs d'entreprise, élus et associations. De la même manière, les faiblesses des uns n'est pas celles des autres et appellent des pouvoirs publics des réponses diversifiées. Ce constat, le Conseil départemental a pu le conduire en s'appuyant sur le témoignage et la réflexion du terrain, demandant à ses équipes un travail interne considérable de remise en question des actions, une analyse des politiques pour les adapter aux mutations territoriales. C'est le fruit de cette réflexion qui a pu donner corps à Gironde 2033, Une projection résolue et partagée pour construire l'avenir de la Gironde. La force du dialogue territorial. Au printemps 2015, alors que se profile la réforme des collectivités locales avec la naissance des grandes régions et la révision des structures intercommunales, une nouvelle génération d'élus incarne cet état d'esprit d'ouverture et de dialogue renforcé. L'Assemblée départementale, composée à parité de femmes et d'hommes, décide de passer à la vitesse supérieure, sans attendre la brise de la refonte institutionnelle. Le souffle qui a été donné emporte l'enthousiasme. Christine Bost, première vice-présidente, s'est vue confier la responsabilité des synergies, des stratégies et du développement des territoires. Elle anime passionnément ce nouveau type de gouvernance.
Le département a su se remettre en question. C'est un immense travail de fond qui a été conduit pour mettre en place des conseils de territoire, qu'ils soient les plus ouverts possibles, les plus participatifs aussi. Plus de 1800 personnes sont venues contribuer aux 18 rencontres que nous avons proposées et qui ont été animées à travers la Gironde depuis le mois de juillet 2015. Élus, responsables associatifs, représentants du monde économique, de la santé, de la culture, du sport, sont venus enrichir une vision commune des territoires et de leur avenir.
Le dialogue territorial ainsi amorcé a conduit à l'adoption par l'Assemblée départementale, au mois de décembre 2015, du Livre blanc des territoires. Christine Bost commente.
C'est un document collectif, voté à l'unanimité des élus, toute étiquette politique confondue. Il dessine les contours d'un projet partagé pour la Gironde, pour ses territoires. C'est un véritable socle pour les politiques départementales.
Vers des contrats et la mise en œuvre. Il s'agit à présent de mettre en œuvre un plan d'action adapté à chaque territoire. Chacun des acteurs a bien conscience des priorités communes qui se sont dégagées, au premier rang desquelles citons le lien social qu'il faut savoir créer entre populations déjà présentes et celles qui arrivent, la nécessité d'adapter les politiques à des modes de vie en évolution rapide, la capacité de valoriser les initiatives locales. Christine Bost précise.
Au rang des priorités, nous devons prendre en compte la mobilité, avec des modes de transport adaptés dans le respect du développement durable, le numérique, avec l'essor des services et des usages, la formation pour la jeunesse, mais aussi pour répondre aux besoins locaux et à l'essor des filières. Et je n'oublie pas l'accès aux services et aux droits. Ce sont autant de priorités qui doivent être prises en compte dans nos politiques départementales.
L'heure est donc venue de signer des pactes territoriaux et c'est ce que propose le département à ses partenaires. Il s'agit d'un contrat de co-responsabilité à conduire pour les 5 ans à venir, à partir des envies d'action identifiées ensemble dans le livre blanc. Le département entend mobiliser ses compétences et sa capacité à accompagner les territoires pour répondre aux enjeux actuels et futurs, aux acteurs locaux de s'engager à participer à un dialogue permanent au travers des conseils de territoire. Dans notre prochain numéro, plus de détails sur cette politique ambitieuse et les objectifs des 9 territoires girondins qui y sont engagés, Haute-Gironde, Libournais, Sud-Gironde, Bassin d'Arcachon, Val-de-l'Aïre, Médoc, Porte du Médoc, Hauts-de-Garonne, Graves et Bordeaux. Informations sur gironde.fr/dialogue-territoire au pluriel.
Principales étapes de Gironde 2033.
Juillet 2015, lancement du dialogue territorial. Septembre 2015, partage avec les territoires du document vers un livre blanc des territoires girondins. Décembre 2015, adoption du livre blanc des territoires girondins par le conseil départemental. Mai 2016, co-construction des engagements collectifs avec les territoires. Juin 2016, adoption du volet stratégique 2017-2021 des pactes territoriaux. Octobre 2016, partage des plans d'action avec les territoires. Décembre 2016, adoption du volet opérationnel des pactes territoriaux 2017-2019. 2017, mise en œuvre avec 2 conseils de territoire par an. Bilan à mi-parcours, ligne d'arrivée 2021.
Cet article est illustré d'une photo de girondins et girondines participant à l'un des 18 ateliers de travail collectif, associations, élus, entreprises, plus de 1800 personnes ont contribué aux 18 ateliers. Maison des adolescents, des réponses adaptées, une écoute attentive. Parce que l'adolescence est une période fragile, vigilance et appui sont de mise. Depuis janvier, la maison des adolescents est renforcée par son antenne de l'Espar, un lieu neutre où sont reçus gratuitement adolescents et jeunes adultes de 11 à 25 ans en solo, mais aussi avec les parents. Un espace de parole où chacun trouvera écoute et soutien.
Un salon cosy, mêlant couleurs douces et bois clair, pose le décor. Dans ces larges fauteuils aux formes accueillantes, une équipe de professionnels rompus au dialogue reçoit les jeunes pour des entretiens anonymes et confidentiels. La commune de l'Espar accueille depuis le début d'année l'antenne de la maison des adolescents sur le Médoc. Elle remplit ici également des missions de santé avec plusieurs établissements scolaires. La ville compte 863 collégiens et 300 lycéens. Elle se dote ainsi d'un espace à leur disposition, ouvert à tous, quels que soient les motifs. Accessible aux jeunes et aux parents, le mercredi de 10h à 17h, l'antenne est animée par deux professionnels qui rencontrent le public de manière spontanée, avec ou sans rendez-vous. Elle s'intègre à l'action globale de la Maison des adolescents sur le territoire, un projet lancé en Gironde fin 2013. Accompagner selon les difficultés. Lorsque nous recevons un jeune avec ou sans ses parents, nous faisons un point global sur sa situation, raconte la directrice Claire Guérin. Famille, lieu de vie, scolarité, sommeil, alimentation, relations sociales, tout est passé en revue afin d'avoir une vue d'ensemble. C'est ce qui va aider la personne à faire émerger sa demande. Un nouveau rendez-vous est ensuite systématiquement proposé et peut être reconduit plusieurs fois, si cela est nécessaire. Mais notre but n'est pas de nous installer dans une prise en charge, précise la responsable. Le rôle de l'équipe se borne à une écoute bienveillante, permettant ensuite d'accompagner l'orientation des jeunes vers les services compétents en fonction des difficultés auxquelles ils font face, selon les besoins. La réponse peut être par exemple de l'ordre du soin, du social, de l'éducatif, du juridique ou passer par la médiation. Nous essayons de nous adapter à chaque cas particulier, précise Claire Guérin, directrice de la structure. Des partenariats étroits avec l'ensemble des institutions et tout particulièrement avec l'école, les travailleurs sociaux et les services de soins permettent d'assurer ces relais partout où ils existent sur le territoire. Famille et entourage. Sur l'ensemble de la Gironde, l'équipe pluridisciplinaire compte 8 professionnels, psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux et infirmiers. Ce regard croisé porté sur les situations permet d'offrir l'accompagnement le mieux adapté. Afin de mobiliser également l'entourage des adolescents, des actions diversifiées comme les petits-déj des parents d'ados sont organisées une fois par mois, autour de thématiques ciblées. Impliqué dans le projet dès 2005, le département a fortement soutenu la création de la Maison des adolescents. Il participe à hauteur de 65% du financement, soit 296 000 euros pour le fonctionnement. Le projet s'intègre dans les missions du département d'accompagnement de la jeunesse et complète les autres dispositifs d'écoute et de prévention. Avec les ados, rien n'est joué, note Claire Guérin. C'est la précocité de la prise en charge qui est fondamentale. Si on leur apporte l'aide dont ils ont besoin, ils reprendront ensuite leur parcours de vie. C'est notre pari. En savoir plus. Maison des adolescents de la Gironde, 5 rue Dufour du Berger, 33 000 Bordeaux, 05 56 38 48 65. Accueil du lundi au vendredi, de 13h à 18h, avec ou sans rendez-vous. Maison des adolescents de l'Espar, 10 place du Maréchal Foch, 33 340, l'Espar, 05 56 38 48 65. Accueil le mercredi de 10h à 17h. Plus d'infos sur www.mda33.fr.
Deux chiffres.
600 jeunes et 400 parents accompagnés en 2015.
De vue d'Isabelle Dexpert, vice-présidente, chargée de la jeunesse, culture, sport et vie associative.
La question de la jeunesse doit être prise dans son intégralité. Pour que nos jeunes puissent s'épanouir et ne passent pas à côté de ce que la société doit leur apporter, il est nécessaire qu'ils puissent être écoutés et accompagnés. L'ouverture à l'autre est une solution quand on ne va pas bien.
Point de vue d'Emmanuel Ajon, vice-présidente chargée de la promotion de la santé et de la protection de l'enfance.
L'adolescence est un moment de vulnérabilité, aujourd'hui amplifié par les périodes que nous traversons. Aussi l'écoute, l'évolution, l'accompagnement des jeunes, mais aussi de leurs parents, de leurs grands-parents, permet d'apporter des réponses personnalisées à chacun d'eux. La Maison des adolescents, qui prend en compte la globalité des problématiques de l'adolescence, contribue à la démarche départementale de prévention et de protection précoce.
L'art de vivre en Gironde sur les routes du vin de Bordeaux. Territoire prisé et renommé, avec ses 6,5 millions de visiteurs l'an dernier, la Gironde ouvre en 2016 ses routes du vin de Bordeaux, 6 destinations labellisées vignobles et découvertes, qui guideront des touristes à la découverte de vignerons et maîtres de chais, mais aussi d'auberges, de jolies randonnées et de trésors patrimoniaux.
Sortons des sentiers battus. 2016 s'annonce comme un grand millésime dans l'histoire de l'œnotourisme en terre girondine, avec le lancement des routes du vin de Bordeaux qui couvriront l'ensemble du département. Une première en France pour un territoire qui a choisi d'y concourir activement avec une enveloppe allouée de plus de 100 000 euros dès cette année. Principalement instaurée pour accroître la visibilité des chais, châteaux et domaines viticoles, c'est toute la Gironde qui devrait bénéficier de ces routes du vin de Bordeaux. 6 000 châteaux, des villages classés, des cités médiévales, des sites archéologiques, des églises romanes. Découvertes œnologiques, culturelles et gastronomiques sont au programme. Bordeaux et sa réputation internationale, le prestige des grands crus classés, une mosaïque d'architecture spectaculaire. Vous connaissez. Alors, sortons des sentiers battus. Les routes du vin de Bordeaux, c'est entre Graves et Sauternes, entre lumière et prestige. C'est aussi la possibilité de découvrir un autre visage de la viticulture girondine, de sa diversité et de son charme, ainsi que des petits ports et une corniche étonnante bordant l'estuaire entre Bourg et Blaye. Au nord de Bordeaux s'étendent les appellations Blaye-Côte de Bordeaux et Côte de Bourg, qui surplombent l'estuaire de la Gironde. Entre villages de pierres blondes et vignes, ce territoire encore souvent méconnu dispose pourtant d'un patrimoine riche et insolite. Habitats troglodytiques, grottes préhistoriques de père-non-père, villas gallo-romaines de Plassac. Cette route des vins est pour nous le moyen de mettre en exergue notre pratique de l'œnotourisme de manière plus cohérente et permet la mise en avant du savoir-faire d'un bon nombre d'acteurs locaux, souligne la responsable de l'Office de tourisme de Bourg, Stéphanie Ballot. Nous savons que la Cité des vins, qui va aussi promouvoir la route, va être une franche opportunité pour notre territoire viticole, qui y gagnera encore plus en notoriété. En embarquant au départ de Bordeaux, du ponton Thomas Jefferson de la Cité du Vin, les visiteurs peuvent alors découvrir Bourg, village ancien atypique construit sur un promontoire rocheux, ou la citadelle de Blaye, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le tourisme fluvial, ce sont près de 12 000 croisiéristes qui foulent le Bourget entre mars et novembre. Ainsi, le développement touristique se conjugue au développement économique local, puisqu'à cet effet sont commandés des produits exclusifs auprès d'acteurs locaux. Cap à l'est pour découvrir les paysages et les vignobles de la plus vaste région viticole du Bordelais, l'Entre-deux-Mers. Autre territoire, nouveau visage de la Gironde, cette route du vin de Bordeaux présente là encore une offre œnotouristique riche et variée, où les visiteurs peuvent à la fois découvrir des châteaux viticoles, des maisons des vins, des caves coopératives, des maisons de négociants qui sont autant de formes de réalisation du vin bordelais. La force de notre territoire, nous la retrouvons dans son paysage, ses fleuves et son patrimoine, explique Aurore Dalla Santa, directrice de l'Office de tourisme de l'Entre-deux-Mers. Il s'agit pour nous de proposer ces alternatives à la fois à la population locale, aux excursionnistes et aux touristes. Amoureux du patrimoine, entre vignes et forêts, l'Entre-deux-Mers se révèle de bastides typiques en abbaye romane et invite à marcher dans les pas des grands hommes du territoire. Toulouse-Lautrec, au château Malromé, et François Mauriac, au domaine de Malagar. Pour les amateurs de balades à vélo, deux parcours de choix. Direction la Bastide de Créon, au bord de la piste Roger Lapébie, ancienne voie de chemin de fer reconvertie en piste cyclable. Bordée de vignes et de moulins, voilà l'occasion de faire halte dans les anciennes gares réhabilitées en piano-bar, en restaurant, en station-vélo ou en bar à vin, et de découvrir une magnifique vue sur l'abbaye de la Sauve Majeure, inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Arrivés à Sauveterre-de-Guyenne, une petite route permet de rejoindre le canal latéral de la Garonne, piste magnifique qui emprunte les anciens chemins de halage au milieu des allées de platanes centenaires. Dégustation avec le viticulteur et découverte des deux cités médiévales de l'Aréole et Saint-Macaire sont alors au programme. Plus ponctuelle et des plus originales, la manifestation Point de vue 2016, Esteille de la Jaugue, se tient du printemps à la fin du mois de septembre. Elle devrait permettre aux visiteurs de suivre, à pied, le petit cours d'eau affluent de la Garonne et fil conducteur d'un parcours mêlant création artistique, paysages naturels, patrimoines oubliés et invitations vigneronnes et gourmandes. Six routes qui donnent à vivre le vin, à parcourir un terroir et le patrimoine qui l'entoure, à découvrir un savoir-faire ancestral, propre à la destination France. Retrouvez toute l'offre des six routes du vin de Bordeaux sur www.bordeauxwinetrip.com. BORDEAUXWINETRIP.
Cet article est illustré de quatre photos. La première représente le château de Roquetaillade à Mazères. La seconde représente une dégustation au château de Régnac, Entre-deux-Mers, Best of Wine Tourisme d'Or 2016 et lauréat de l'appel à projet Œnotourisme 2015. La troisième représente à Gaillan en Médoc la coopérative Unimédoc parmi les cinq lauréats Œnotourisme 2015 du département, vin, son et lumière, mais aussi accueil du public handicapé. La quatrième photo représente la Cité du Vin. Elle sera inaugurée le 1er juin prochain à Bordeaux, présentera toute l'offre œnotouristique de la Gironde, une initiative accompagnée par le département à hauteur de 1 million d'euros pour la plateforme œnotouristique au profit des territoires. Point de vue de Pascal Gault, député de la Gironde, présidente de Gironde Tourisme, conseillère départementale du canton Sud-Médoc.
La nouvelle offre œnotouristique représente un véritable enjeu pour la Gironde. Non seulement elle doit valoriser des petits producteurs de talent, mais aussi nous permettre de faire découvrir tout un patrimoine autour des exploitations viticoles. Les routes du vin de Bordeaux, c'est un très beau pari que se fixe Gironde Tourisme.
Le label Vignoble et Découverte, c'est quoi ?
Une démarche qualité dans le domaine de l'œnotourisme créé en 2009. Une marque collective portée par Atout France et le CSO, Conseil supérieur de l'œnotourisme. Vignoble et Découverte est une distinction nationale accordée pour 3 ans à une destination viticole comprenant une sélection de prestations de qualité. Il existe 8 catégories d'activités. Les domaines viticoles, les hébergements, la restauration, le patrimoine culturel, naturel, immatériel, les offices de tourisme, les structures réceptives, les activités sportives, loisirs, bien-être, les événements. Respect de nombreuses exigences pour tous les partenaires locaux affichant le label. Une qualité d'accueil en français ou dans une langue étrangère, une sensibilité toute particulière à l'univers du vin, le goût de la transmission, l'authenticité et l'ouverture au patrimoine naturel, culturel et humain. Contact. Carole Dufraîche, responsable du pôle œnotourisme, Gironde Tourisme. C.Dufraîche@gironde-tourisme.com. Dufraîche, D-U-F-R-E-C-H-E, en un seul mot.
La page Trans-Gironde.
Je covoiture au quotidien.
Chaque jour, sur la rocade, les automobilistes sont le plus souvent seuls dans leur voiture, covoiturés pour aller travailler et faites disparaître les bouchons.
Faites sauter les bouchons!
Si un automobiliste sur cinq covoiture, le résultat, c'est zéro bouchon.
Conducteurs et passagers, entrez en contact sur transgironde.fr.
À la découverte, tête de Gironde, Isabelle Laporte, la permaculture ou l'agriculture à taille humaine. Depuis 2006, Isabelle Laporte a fait de l'Érial du Claouet, au milieu des pins, un lieu d'expérimentation concrète de la permaculture. Il s'agit d'un mode d'exploitation agricole à taille humaine qui place l'agriculteur au cœur d'un dispositif respectueux de son environnement, en harmonie avec son lieu de vie, mariant techniques ancestrales et novatrices. Récit.
Isabelle était animatrice socioculturelle avec une formation en coopération internationale et développement durable. Son mari, Pierre, médecin urgentiste. De projets d'accompagnement en Asie aux chantiers de jeunes dans le sud-ouest, d'un tour de France au gré des remplacements de son époux à une année en Amérique centrale avec leurs enfants, finalement, c'est l'Érial du Claouet à Préchiac qui deviendra leur havre de paix. Le 13 habitants au kilomètre carré, une densité des plus basses en France, fut déterminant. J'avais la sensation que je ne réfléchissais et ne respirais pas bien quand il y avait trop de monde. Et surtout, j'avais envie de me retrouver en milieu forestier, raconte Isabelle Laporte. Il s'agit alors de restaurer une bâtisse de 1830, de penser ces 2 hectares, mais pas n'importe comment. Naît alors une association en 2006 qui met en avant un autre mode de vie, fondée sur le respect et la compréhension de la nature. Rapidement, on a monté la Belle Verte, du nom du film de Colin Serrault, afin de mutualiser nos biens. On a mis à disposition les outils, les livres, les revues. Je me suis intéressée tout d'abord à l'agroécologie et c'est par là que je suis arrivée à la permaculture. Permacultrice, un métier, une philosophie. La permaculture peut s'entendre comme un art de l'aménagement d'un territoire et un mode de vie qui concerne tous les aspects du quotidien. Elle peut être mise en œuvre partout, aussi bien à l'échelle d'un appartement que d'une ville, d'un potager que d'une ferme. Le mot permaculture en lui-même est la contraction de agriculture permanente, inventée par Bill Mollison et David Holmgren dans les années 1970. Il regroupe des principes et des techniques d'aménagement et de culture, à la fois ancestraux et novateurs, dans un concept global, le design. À la Belle Verte, nous avons tout d'abord longuement observé et analysé le site afin d'appréhender au mieux notre environnement, connaître le cycle de l'eau, le cycle solaire, les vents dominants, le climat et les types de sols nous a permis de mieux choisir les emplacements pour nos espaces de culture, le verger, les ruches, l'étang, commente Isabelle. Dans un jardin en permaculture, il y a généralement 5 zones d'activité qui facilitent la vie et permettent d'économiser l'énergie. La zone 1 étant celle où l'activité humaine est très fréquente. Elle se situe au plus près de la maison et la zone 5 étant celle où l'activité humaine est quasi inexistante Elle est la plus éloignée de l'habitation. Isabelle et sa famille ont ainsi adopté un mode de vie qu'elle ne qualifie pas d'exemplaire, mais plutôt d'expérimental. Toilettes sèches, aires de compostage, plantation de légumes et d'aromates, phytoépuration, poulailler, panneaux solaires sont les installations que nous utilisons au quotidien. Ici, nous désirons apporter une réponse aux problèmes actuels de nourriture, d'énergie, de gaspillage ou de déchets. Nous revalorisons ce que la nature nous donne pour vivre en harmonie avec elle. Se promener à l'oasis La Belle Verte permet de découvrir des techniques telles que les spirales aromatiques, des jardins en trous de serrure, des buttes de permaculture, des hôtels à insectes, des haies champêtres mellifères. L'ensemble du terrain de 2 hectares est devenu écolieu expérimental et depuis août 2015, Isabelle dispense des formations à la permaculture tout au long de l'année. De la ruine à Préchac, venez voir ce qu'ils en ont fait. L'oasis a grandi et évolué depuis ses premières années. Le samedi 11 juin, portes et jardins seront ouverts à La Belle Verte afin de découvrir des espaces cultivés intensément vivants, reposants et soignés amoureusement. Info pratique, samedi 11 juin 2016, portes et jardins ouverts à La Belle Verte, l'Érial du Claouette, Ginsoulé à Préchac. Téléphone 05 56 65 25 70. Site internet la-belle-verte.net.
L'orgue de l'Aréole, une vie chaotique. La construction de l'église Saint-Pierre du Prieuré commence au XIIe siècle. Le 13 décembre 1764, les religieux du monastère Saint-Pierre de l'Aréole qui veulent magnifier leur église, confient à Jean-Baptiste Micot et son fils Pierre la construction d'un orgue. C'est le début d'une épopée singulière qui verra cet instrument majestueux et a priori immobile déplacé plusieurs fois.
Durant la Révolution française, l'église Saint-Pierre de l'Aréole est relativement épargnée, bien qu'elle fasse fonction de halle à fourrage, puis de temple dédié à la déesse Raison. Simultanément, à Bordeaux, la cathédrale Saint-André perd, entre autres, en cette période trouble, une partie de son mobilier et son grand orgue. Après la Révolution, l'archevêque Mgr Charles-François Daviaud Dubois de Sanzay fait alors attribuer à la cathédrale Saint-André une partie du mobilier de l'église Saint-Pierre de l'Aréole et son grand orgue. Pourtant, au XIXe siècle, l'orgue de l'Aréole est jugé insuffisant pour la vaste cathédrale et l'archevêque lui préférera celui de l'église Sainte-Croix de Bordeaux, une église qui recevra un temps l'orgue Micot avant qu'il ne soit décidé en 1985 de le retirer pour que le lieu de culte bordelais récupère enfin son orgue d'origine. Le retour de l'orgue perdu. En 2000, des habitants de l'Aréole, dont Régine Clavet, aujourd'hui présidente de l'Association des Amis de l'Orgue et le conseil municipal, présidé par Bernard Castagnet, tentent une nouvelle démarche pour récupérer l'instrument réolais. 15 années seront nécessaires pour que l'orgue Micot rentre au bercail, avec un chantier de réinstallation placé sous la conduite de Thierry Semenou, technicien conseil auprès de la Direction régionale des affaires culturelles. Cet extraordinaire chantier a été confié à Pascal Coirin, un facteur d'orgue de Saint-Didier, Vaucluse, qui a reçu l'orgue dans son atelier pour le restaurer. Novembre 2015, 225 ans après son déplacement, l'orgue historique prestigieux retrouve enfin son implantation initiale dans un buffet contemporain. C'est la fin de l'épopée de l'orgue baladé et baladeur, enfin restitué à son église d'origine.
Coût de l'opération, 961 996 euros, dont 684 892 euros de subvention, avec 167 386 euros
versée par le département pour la réfection de l'orgue et la restauration de l'église, le solde 277 104 euros étant à la charge de la ville de La Réole qui a mobilisé du mécénat.
Valorisation.
L'orgue de La Réole permet un immense répertoire musical, du baroque au contemporain en passant par les romantiques, faisant de l'église de La Réole aussi une authentique salle de concert. La valorisation de cet instrument est l'un des vrais piliers de la nouvelle attractivité de La Réole, ayant obtenu le label des villes d'art et d'histoire, qui a lancé une vaste opération de modernisation urbaine, soutenue par l'État, la région et le département.
Cet article est illustré de deux photos. La première représente le majestueux buffet de l'orgue installé dans l'église Saint-Pierre de La Réole. La seconde représente ce que l'on voit rarement, la console de l'orgue, avec ses trois claviers, son pédalier, ses pédales d'expression, ses poussoirs champignons au pied et une multitude de boutons poussoirs actionnant les registres. Itinérance, la réserve ornithologique du Teche, les oiseaux en majesté. Ouverte au public depuis 1972, la réserve ornithologique du Teche est un espace naturel préservé, aménagé, destiné à accueillir les oiseaux sauvages et à favoriser leur observation par le public. Découverte.
En liberté, les migrateurs transitent ou se sédentarisent, se reproduisent et s'ébrouent à souhait en pleine nature, dans le calme, sur les rivages du bassin d'Arcachon. À cet égard, le delta de la Laïre demeure l'un des lieux les plus prisés par les diverses espèces qui le peuplent. Les résidents sauvages ne sont pas là par hasard, bénéficiant d'un habitat naturel, adoptant des comportements identiques à ceux qu'ils ont hors du site, les oiseaux sont libres de leurs mouvements. Ils sont aussi familiers de la présence humaine, autant celle du profane que de l'observateur averti ou des scolaires. Ici, chacun évolue dans le silence et le respect des règles, et les 110 hectares de marais maritimes, lagunes, bassins d'eau saumâtre, prairies ou boisements offrent un dépaysement total propice à l'observation. S'il existe déjà plusieurs observatoires sur place, un nouveau belvédère sera opérationnel avant la saison estivale. Une aubaine, tant pour les habitués que pour les futurs touristes. Cet endroit sera un lieu d'observation de la migration très intéressant, confie Olivier Vidal, animateur historique de la réserve, pour le plus grand bonheur des passionnés, assurément. Réserve ornithologique du Teche, rue du Port, boîte postale 11, 33 470 Le Teche. Téléphone 05 56 22 80 93. Fax 05 56 22 69 43. La réserve est ouverte tous les jours de l'année sauf le 25 décembre. www.reserve-ornithologique-du-teche.com.
Itinérance, domaine départemental de Blasimont, l'offre multicarte. Situé au cœur de l'Entre-deux-Mers et à 50 km à l'est de Bordeaux, le domaine départemental de Blasimont offre aux amoureux de la nature et aux sportifs la possibilité de profiter d'un terrain de jeu géant au grand air. De multiples activités sont proposées dans un cadre aménagé et préservé.
Fort d'une superficie de 60 hectares, dont 48 sont classés espaces naturels et sensibles, le domaine nature de Blasimont décline plusieurs alternatives de loisirs. Sur ses hauteurs, la boucle de randonnée pédestre, longue de 5 km, permet d'effectuer le tour complet du site en traversant forêts, prairies et ruisseaux, tout en profitant du spectacle que déclinent de très jolies mini-cascades rares et protégées. Une itinérance de 2 km propose également de faire le tour du lac, 7 hectares, et de découvrir au détour des sous-bois une flore et un habitat très varié. Le promeneur peut ainsi croiser chauves-souris, cistudes d'Europe ou papillons de diverses espèces, voire des loutres, si celles-ci ne jouent pas à cache-cache. Sur la partie basse du site, le plan d'eau est dédié à la fois à la baignade et à la pêche. Sur cette surface de loisirs, on peut pratiquer le stand-up paddle et faire du canoë-kayak, non loin de la zone d'activité permettant de s'adonner aussi au beach volley, au beach tennis et de s'initier au tir à l'arc. Sans oublier de découvrir le parcours de maniabilité VTT. Il faut le savoir, le 2 juillet aura lieu la deuxième édition de la Crazy Race, une course d'obstacles de 6 km à parcourir deux fois avec 34 obstacles à franchir. Ludique, mais pas seulement. Pour les non-compétiteurs, la promenade de Blasimon, qui part du centre-ville de la Bastide médiévale et son abbaye, 10e siècle, son vieux château et ses moulins sera préféré. Domaine ouvert toute l'année, entrée et parking gratuit. Camping ouvert d'avril à octobre avec 9 mobilhomes et 35 emplacements libres. Inscription et information Crazy Race gironde.fr/challenge-sportif. Challenge et sportif au pluriel. Téléphone 05 56 88 70 29. Plus d'infos sur gironde.fr/domaine-nature. Domaine au pluriel.
Producteur de Gironde, une bien belle pousse. Depuis le mois de décembre, les asperges du Blayais bénéficient d'une indication géographique protégée. Une reconnaissance de la qualité unique de ces belles pousses blanches et violettes qui vient récompenser le travail des producteurs et conforter la confiance et le soutien que leur accorde le département.
Notre asperge était connue. Désormais, elle va être reconnue, se félicite Danielle Chambarot, présidente de l'Association des producteurs de l'asperge du Blayais. Depuis le 8 décembre, c'est en effet officiel. Le légume phare du nord de la Gironde possède une Indication géographique protégée, IGP, un label européen exigeant qui reconnaît en tant que fruit du terroir les qualités spécifiques de la plante. Un sol sableux, la proximité de l'estuaire, un climat doux et humide, etc., énumère la productrice. Ce sont les conditions idéales à cette culture et autant de facteurs qui nous permettent de nous différencier. Cet environnement et un solide savoir-faire permettent en effet une croissance rapide qui évite aux légumes de devenir amers et filandreux. Résultat, comme le souligne Danielle Chambarot, une fructuosité, une tendreté et une douceur incomparables. Elle et son mari, Jean-Pierre Bouillac, se sont lancés dans cette production il y a 30 ans de cela. Mon mari cherchait à compléter son activité de pépiniériste et fidéliser son personnel, raconte-t-elle. Il a tenté le coup. Et ça a marché. Quand on fait les choses avec ses tripes et que l'on est passionné, on se laisse porter. Passion partagée. Cette même passion l'a conduite à prendre il y a un an la présidence de l'Association des producteurs qui a porté le projet d'IGP et en est devenu depuis l'organisme de défense et de gestion. La démarche a mis 10 ans à aboutir, précise Danielle Chambarot. Ça a été très long. Les producteurs pensaient que ça n'arriverait jamais. Mais ils se sont mobilisés et nous avons embrayé le pas. Le département, ajoute-t-elle, a été un partenaire très important dans le développement et la pérennisation de cette culture. Il y a cru. Par ses subventions à la plantation, il a permis au bassin de production de se maintenir et apporte également une aide au fonctionnement et à la structuration de l'association ainsi qu'à sa communication. Aujourd'hui, une petite quinzaine de producteurs peut afficher le label sur ses produits. Mais d'autres dossiers sont en cours. En bénéficier nécessite en effet de répondre à des règles strictes. La zone géographique, bien sûr, mais aussi la composition des sols, le choix des variétés, la traçabilité, les conditions de conservation, etc. Avec un objectif qui guide tout le travail, précise Danielle Chambarot, faire au mieux pour le consommateur. Association des producteurs d'asperges du Blayais, APAB, 38 Avenue de la République, 33 820, Brault et Saint-Louis, téléphone 05 57 32 41 76, site internet www.aspergeaupluriel-blayet.com.
Soutien aux producteurs. Dans le cadre de sa politique agricole et forestière, le conseil départemental soutient la production d'asperges du Blayet, notamment à travers une aide à la plantation, correspondant à 30% des coûts d'achat des griffes et de mise en place de la plantation la première année. Depuis 15 ans, 150 hectares d'aspergerie ont ainsi été replantés. Sont aussi financées des actions qualité, de développement commercial, etc. En 2015, 153 568 euros ont ainsi été alloués par la commission permanente sur les attributions d'aide départementale.
Une date à retenir, la fête de l'asperge.
Marché gastronomique, démonstration culinaire, concerts, animations, visites d'exploitation. Les 23 et 24 avril à Étolier, 33 820.
Recette.
Lasagne au saumon et aux asperges
pour 6 personnes.
Plongez 500 g d'asperges pendant 10 minutes dans l'eau bouillante salée, égouttez, séchez et coupez en tronçons. Préparez la sauce. Dans une casserole, faire chauffer environ 3 cuillerées à soupe d'huile d'olive avec 65 g de farine et du poivre, sans cesser de remuer pendant environ 1 minute. Versez 5 décilitres de lait. Laissez épaissir un peu en tournant. Hors du feu, ajoutez 5 centilitres de vin blanc, 20 centilitres de crème fraîche et de la muscade. Salé.
Préchauffez le four à 190 degrés, thermostat sur 6.
Dans un plat beurré, mettre une première couche de lasagne, tartiner d'une fine couche de sauce, parsemer de tronçons d'asperges et de lamelles de saumon, 800 g. Alternez ainsi les couches jusqu'à épuisement des ingrédients.
En terminant par une couche, sauce, asperges, saumon.
Saupoudrez de bleu d'Auvergne, 200 g. Faire cuire environ 20 minutes.
Servir chaud.
D'autres recettes sur le site lafetedelasperge.com sans accent.
Tribune libre. Conformément à la loi, ces pages sont réservées à l'expression des groupes politiques départementaux. À ce titre, le Conseil départemental attribue un espace proportionnel à la représentativité des différents groupes qui composent l'Assemblée. Les propos publiés dans cette rubrique n'engagent que leurs signataires. Groupe socialiste.
L'égalité au cœur de notre action. L'égalité est une des valeurs républicaines sans cesse portées par la majorité départementale, conduite par Jean-Luc Glaize, notre président. En s'engageant au travers de la délégation confiée à Clara Azevedo et Jean Galland pour que l'égalité entre les hommes et les femmes dans les services du conseil départemental, comme avec tous les acteurs du territoire girondin, soit l'objet d'actions et d'attentions particulières pour gommer enfin cette différence inacceptable. En veillant également à l'égalité territoriale pour que services publics et équipements de proximité se conjuguent pour le développement équilibré du territoire girondin, que ce soit dans les territoires ruraux comme dans les territoires urbains et notamment les plus fragiles. Mener avec courage ces politiques suppose aussi de le faire dans une maîtrise et une rigueur budgétaire avérée, dans un contexte où les aides pour les personnes âgées, APA, les personnes handicapées, PCH, et pour l'insertion, RSA, sont en hausse constante. La majorité poursuit une volonté courageuse, celle de maintenir un niveau de service de qualité, ainsi que des investissements élevés pour faire fonctionner l'économie girondine et garantir le maintien des emplois. Elle le fait en contenant les dépenses du département. Ainsi, notre majorité s'est engagée à faire des économies sur les charges de gestion générale à hauteur de 3%, soit 9 millions d'euros en 2016. Dans cette perspective, nous serons également vigilants au maintien de la masse salariale, avec une augmentation contenue de 1% au lieu des 2% qui sont enregistrés mécaniquement chaque année. Et puisqu'il est impératif de garder une santé financière saine, les élus ont défini des priorités politiques pour limiter des dépenses et accentuer l'action départementale sur ces actions essentielles. En 2016, la Gironde, avec une contribution de 26 millions d'euros, participe donc au redressement du déficit national, mais poursuit ses efforts pour que vivent les solidarités humaines et territoriales. L'accent est notamment mis sur nos interventions au profit de l'investissement public, au soutien à la vie associative et à l'aide contractualisée aux communes et communautés de communes. La majorité témoigne ainsi de sa combativité en faveur de la solidarité humaine, lutte contre le chômage, insertion, lien social et territorial, développement des villes et villages de la Gironde, en ville comme dans les zones rurales. Le budget départemental est entièrement tourné vers la solidarité laïque entre les Girondins de tous âges, de toutes origines, de tous lieux de vie. L'égalité d'accès aux services dont l'éducation, la liberté des choix, sportifs, culturels, associatifs, le lien indispensable entre les territoires afin que vive la fraternité. Face aux difficultés, là où certains s'abandonnent à des critiques radicales ou à affirmer ce qui est inexact, nous agissons chaque jour pour chaque Girondine et chaque Girondin, car, comme le disait John Baez, l'action est l'antidote du désespoir.
Groupe politique socialiste 05 56 99 35 78 groupe-ps@gironde.fr. Retrouvez l'information du groupe politique socialiste du département de la Gironde sur www.cg33-ps.net. Europe Écologie Les Verts.
Réagir maintenant face au danger des pesticides. Tandis que notre département arrivait en tête du palmarès 2015 de l'écologie en France, un domaine cristallise les craintes des Girondins depuis la diffusion, mardi 2 février, de l'émission Cash Investigation. Les effets des pesticides sur notre santé et celle de nos enfants. Face à la situation sanitaire et environnementale de la Gironde, avec 132 écoles classées en zone dangereuse et 3320 tonnes de pesticides vendus chaque année, le groupe des élus EELV réclame des actions urgentes. C'est pourquoi notre groupe se mobilise pour que le Conseil départemental amplifie son soutien à la transition dans les filières les plus concernées, comme la viticulture. De plus en plus d'agriculteurs veulent abandonner l'usage des pesticides, comme le montre l'explosion des conversions en bio depuis 2007. Rien ne s'oppose à cette nécessaire évolution des pratiques agricoles qui polluent notre environnement et altèrent notre santé, mais c'est aux collectivités locales de montrer la voie du changement.
Europe Écologie Les Verts, contact 05 56 99 67 03. Notre site internet élu-gironde.eelv.fr/ Facebook www.facebook.com/eelvcdgironde Twitter @élu-8cd33 Front National. En 2016, plus d'impôts, plus de dettes, plus de gaspillage.
En décembre dernier, le Conseil départemental se réunissait pour voter son budget primitif, c'est-à-dire le plan d'action du département pour l'année 2016. Au-delà des éléments de langage et des artifices de communication, il en ressort que la majorité socialiste sera fidèle à elle-même dans la gestion de notre département. Aide massive aux migrants, subventions aux associations politisées ou qui ne servent pas l'intérêt général, masse salariale pléthorique, refus d'un contrôle sérieux des bénéficiaires du RSA, saupoudrage des subventions, aide aux pays d'Afrique et de l'Europe de l'Est, etc. Le résultat de cette politique, une nouvelle hausse de la part départementale du foncier bâti, probablement de 3 à 6 %, un endettement qui explose et une baisse de l'investissement de 15 % qui va durement impacter l'économie girondine. les deux élus Front National continuent inlassablement d'incarner la seule opposition constructive, en dénonçant sans concession cette gestion calamiteuse, mais en apportant aussi des solutions que la majorité socialiste refuse par idéologie et clientélisme.
Front National, Sonia Coleman, C-O-L-E-M-Y-N, Grégoire de Fournas. Élu Front National, retrouvez-nous sur Facebook et sur www.fn-medoc.fr. 07 83 32 50 94. Gironde à venir.
Que pensez-vous de l'évolution des dépenses sociales pour le département ? Certaines dépenses de fonctionnement, comme celles relatives au RSA, mais aussi la prestation de compensation du handicap et l'allocation personnalisée d'autonomie sont aujourd'hui volontairement sous-estimées. La majorité départementale devrait être plus réaliste dans ses prévisions et plus pragmatique vis-à-vis du gouvernement. Comment jugez-vous le budget prévisionnel ? Le budget proposé en décembre est un budget d'affichage. C'est un exercice de communication fondé sur des prédictions de l'an dernier totalement irréalistes. Ainsi, il prévoit de contenir certaines dépenses comme le RSA. Quand on voit la hausse du chômage, on sait bien que les dépenses sociales vont nécessairement exploser. Dans le même temps, l'État baisse ses dotations au département de 85 millions d'euros. Il est inadmissible que les contribuables girondins paient une fois de plus pour compenser les choix radicaux et les entêtements gouvernementaux. Nous sommes contre la hausse de la fiscalité. L'impôt n'a pas vocation à compenser les baisses de dotations de l'État. Quelle est la priorité dans votre canton ? Elles sont nombreuses, mais comme ailleurs, la question du chômage est permanente. Permettre aux personnes sans emploi de reprendre une activité professionnelle est un souci quotidien. Je m'engage notamment pour que Castillon-la-Bataille, où je suis maire, intègre le dispositif Territoire zéro chômeur. J'utiliserai tous les outils à la disposition des collectivités pour faire bouger les lignes. Nous ne pouvons pas regarder les situations s'aggraver et ne rien tenter. Ce n'est pas la vision politique de Gironde Avenir.
Gironde Avenir, groupe d'opposition de la droite et du centre, www.gironde-avenir.org, 05 56 99 57 87, 05 56 99 35 40. Retrouvez notre actualité sur Twitter et Facebook. Agenda, voici une sélection d'événements forts en Gironde.
Bourse au vélo, dimanche 3 avril, Bordeaux. L'association Vélocité organise une grande bourse au vélo, quai Louis XVIII. Vous pouvez déposer votre vélo à vendre dès 9h30 avec bulletin à pré-remplir sur www.vélo-cité.org et retirer votre ticket d'entrée pour acheter dès 10h. Début des ventes à 11h. Téléphone 05 56 81 63 89 www.vélo-cité.org.
Delta à vélo, 7, 14, 21 et 28 avril, Le Teche. Avec votre vélo, accompagné d'un naturaliste, partez sur les sentiers du nord du Delta pour découvrir les paysages et la nature changeante, mais aussi l'action de l'homme sur les sites. Un circuit de 12 km environ vous attend, entre pistes cyclables, sentiers forestiers et routes peu fréquentées. Les balades sont gratuites sur réservation. Parc naturel régional des Landes de Gascogne, Maison de la nature du bassin d'Arcachon, 05 56 22 80 93. www.parc-landes-2 Gascogne.fr.
Musique Académie, 16 au 25 avril, Ourthin. La 20e Académie internationale de musique d'Ourthin fera résonner autour du lac des notes de haut vol et accessibles à tous, comme un langage universel qui a de nombreux adeptes. Rien ne remplace un concert. Venez en juger par vous-même. 06 89 35 36 69 www.musique-ourthin.com.
Musique tahitienne, du 25 au 29 avril, Marche Prime. Dans le cadre de ses petites scènes, Didac et ses partenaires reçoivent en résidence à la Caravelle de Marche Prime, UATA. Ce groupe, dont le nom signifie « pluie blanche » en tahitien, revisite la musique ethno-folk avec brio et une belle sensibilité. Ces musiciens de talent se sont déjà produits avec de grands noms de la musique actuelle, comme Moriarty, Israël, Vibration ou encore Shannon Wright. UATA sera ensuite en tournée jusqu'en mai à Bègles, Cadillac, Castillon-la-Bataille, Salles, Coutras et Villeneuve-d'Ornon. 05 56 17 36 36 www.iddac.net.
Salon du livre, du 28 avril au 1er mai, Andernos-les-Bains. Le 6e Salon du livre jeunesse, à la salle du Broustic, réunira auteurs et illustrateurs qui ne manqueront pas de visiter aussi les classes des établissements scolaires du Nord-Bassin. Le grand public est invité dès le 29 avril à partir de 17h à découvrir l'événement avec expositions, conférences, spectacles et rencontres en présence d'éditeurs et de libraires. 06 98 15 94 17 www.granddilire.fr.
Jumping National, 29, 30 avril et 1er mai, Gradignan. Le jumping de Gradignan, réunissant l'élite des cavaliers et leurs montures, vous invite à un événement d'exception à l'occasion de sa 29e édition au parc de la Fondation La Navarre, 181 rue Saint-François-Xavier. L'entrée aux 3 journées hippiques est gratuite. Renseignements 05 56 23 23 54.
Vin et fromage. Samedi 30 avril, Parampuire. La ville de Parampuire met à l'honneur le patrimoine gastronomique local. Les producteurs de vin et de fromage vous donnent ainsi rendez-vous pour une foire en plein air sur le site de l'Art Ichaud. Épelé ART, plus loin Y, plus loin Chaud, S-H-O-W. Et à partir de 10h, ne manquez pas la transhumance des moutons. Renseignements 05 56 95 56 20.
Architecture et cinéma. 29 avril, 27 mai et 27 juin, Capcieux, Bègles, La Réole. Le CAUE vous invite au cinéma. Pour sensibiliser le grand public à la question de la revalorisation des centres-bourgs, le CAUE propose le cycle Ciné-Débat, en plein centre, avec 3 lieux, 3 thèmes et 3 films. Au programme, le vendredi 29 avril au cinéma de Capcieux, Un village presque parfait. Le vendredi 27 mai à Bègles, un documentaire sur l'habitat participatif dans le cadre du Festival du film d'architecture et des avenues constructives et, le vendredi 27 juin, au cinéma Le Rex de La Réole, un film autour de la revalorisation des centres-bourgs. 05 56 97 81 89 www.caugironde.com.
Marathon. Samedi 7 mai, Blaye. Vous avez rendez-vous avec le 13e marathon des vins de Blaye et la 4e édition des 10 km des vignes. Départ fixé à 9h30. La course à vivre sans modération. Accueil pour un spectacle inoubliable des sportifs déguisés ou non. Téléphone 05 57 42 91 19 www.marathondesvinsdeblaye.com.
Festival ODP, du 13 au 15 mai, Talence. Voici la 2e édition du festival au profit de l'œuvre des pupilles, orphelins et fonds d'entraide des sapeurs-pompiers de France, ODP. Pour l'occasion, à Talence, le grand public, en participant à une belle cause, verra en concert, entre autres artistes, Black M, Louise Attac, mais aussi Brigitte et Hubert Félix Thieffen. À ne pas manquer.
Basket. 14 et 15 mai, Pessac. L'entente Pessac Basket Club organise son 37e tournoi de la Pentecôte. Sur le site du château de Belgrave, près de 90 équipes sont attendues, soit 900 joueurs venant de toute la France. Un très beau rendez-vous avec, à la clé, l'un des meilleurs tournois spécifiques jeunes de France. 06 82 88 22 63 epbc.tournoi@gmail.com.
Nature en fête, 20 et 22 mai, Talence. Le Métalancé 2016 s'annonce comme l'événement incontournable pour les amoureux des jardins. Dans le cadre de la fête de la nature, des dizaines d'exposants donnent rendez-vous au public avec, à la clé, conférences, défilés de voitures anciennes, expos artistiques et ateliers jardinage. 05 56 84 78 82 05 56 84 78 85 www.ocet.fr. Ocet, s'épelant O-C-E-T.
Mamans en fête. Samedi 28 mai, Bordeaux. La Fondation Apprenti d'Auteuil renouvelle cette année sa vente solidaire Mamans en fête sur le quai des Chartrons à l'occasion du week-end de la fête des mères. De 10h à 18h, venez participer à une opération qui permettra de financer le dispositif Diapason du quartier des Aubiers. Nombreuses animations au programme. www.maman-en-fête.org.
Aventure constructive, 26 et 29 mai à Bègles. Bègles accueille le Festival international du film d'architecture et des aventures constructives. Une quinzaine d'œuvres sélectionnées parmi les productions des trois dernières années, fiction, documentaire et films d'animation sont au programme. Et, comme tout festival, un grand prix sera remis sous la houlette d'un jury composé de professionnels des mondes de l'audiovisuel et de l'architecture. Téléphone 07 87 72 12 29.
Art équestre, samedi 11 juillet, l'Aréole. Soyez au rendez-vous de la première édition du festival Régula de l'Aréole. Au carrefour de l'art équestre, du théâtre et du patrimoine, l'événement valorisera le label Ville d'art et d'histoire de la cité. www.facebook.com/festivalregula/.
Raid des maraîchers. Samedi 4 juin, Aisines. Participez à la 12e édition du Raid des maraîchers et découvrez les secrets de la zone agricole la plus vaste de l'agglomération bordelaise. Balades à pied ou à vélo, étapes chez les producteurs et marchés de pays émailleront cette belle journée. L'inscription dès le 15 avril est gratuite. 05 56 16 18 18 www.aisines.fr.
Aquathlon, dimanche 26 juin. Ostens, venez participer à la grande épreuve sportive ouverte à tous, champions aguerris et concurrents amateurs, dans le cadre exceptionnel du domaine départemental d'Ostens. Bonne humeur garantie, voir ce magazine page 11, 05 56 88 70 29, gironde.fr, challenge-sportif. Challenge et sportif sont au pluriel.
Instantané Gironde, concours photo. Voici la prise de vue qui a remporté le concours. La photo est signée Christine Lecroix. Elle représente une femme d'un certain âge avec son chapeau de paille, disant un secret à une autre plus jeune, toute sourire. Elle a été prise à Saint-Marien et symbolise les relations intergénérationnelles. Gironde Mag. Magazine édité par le département de la Gironde, direction de la communication, 1 Esplanade Charles de Gaulle, CS 71-223, 33-074 Bordeaux CEDEX, téléphone 05 56 99 33 33, directeur de la publication Jean-Luc Glaise, co-directeur Mathieu Rouveyre, Laurent Carrier, rédacteur en chef Didier Beaujardin. Coordination, direction de la communication, rédaction Didier Beaujardin, Brigitte Botte, Sophie Breton, Laurent Brun, Bénédicte Coudière, Stéphanie Coy, Laurent Espieux, Bérangère Hénoir, Julie Martin, Sophie Poirier, Carole Ratier, Richard Zéboulon. Crédit photo, Anaka, dont la photo de couverture, Château Smith, au Lafitte, CAUE Gironde, Xavier Cantat, Château de Régnac, Gironde Tourisme, Bertrand Lingue, Jacques Gillon, MDA 33, Aurélien Marco, Olivier Panier des Touches, Paul Robin, Yves Samuel, Thierry Semenou, Hubert Sion, Jean-Jacques Soin, Christian Verrouille, Les Vignerons du Nîmes-Médoc, Photothèque du département, Service du département. Conception graphique, agence CEPA Bordeaux. Pré-presse et chromie, Scoop Communication, Olivet. Impression sur papier, PEFC. Imaille et graphique, Laval. Dépôt légal, apparition. Tirage, 559 500 exemplaires. ISSN, 1141-5932. Gironde Mag est distribué gratuitement dans tous les foyers girondins, imprimé en braille et audio traduction. Si vous souhaitez aussi recevoir Gironde Mag, 05 56 99 33 33, poste 37 24.